Alors, chapitre 4, vous avez terminé avec le verset 1. « Maître, accordez-vous à vos serviteurs, accordez à vos serviteurs ce qui est juste, équitable, sachant que vous aussi, vous avez un maître dans le ciel. » Quel autre passage qui parle des maîtres et des serviteurs? En réalité, serviteur, c'est, pas si Célestin vous l'a dit la semaine passée, mais c'est esclave. Quand on parle des serviteurs, c'est maître et esclave. Donc, il y avait des maîtres et des esclaves chez, on est à Colosse, là. Paul écrit à l'église de Colosse, aux chrétiens de Colosse. Donc, il y avait des maîtres et des esclaves aussi chez les chrétiens. C'est normal. Vous venez de vous convertir. Toute votre maison, vous avez un esclave pour faire le ménage, un esclave pour faire la cuisine, un esclave pour faire le jardin, un esclave pour éduquer vos enfants. C'est les enfants, c'est les esclaves qui enseignaient les enfants, etc., l'école, autrement dit. Vous venez de vous convertir comme ça. Ça change. Est-ce que ça va changer quelque chose avec vos esclaves? Vous pouvez pas les mettre dans la rue. Un, si vous les mettez dans la rue, vous allez être mal pris, parce que qui va faire le ménage, qui va faire le message, qui va faire ci, qui va faire ci, qui va faire... etc. Il n'y a pas juste à Colosse que Paul dit, parle des maîtres et des esclaves. Dans quel livre aussi? Philémon en parle d'une manière différente, parce que Paul en parle à Philémon, parce que Philémon avait un esclave qui s'appelait Onésime. Et qu'est-ce qui est arrivé avec Onésime? Onésime, il a pris la poudre d'escampette. Qu'est-ce qui arrive à un esclave qui s'enfuit? OK, il mérite la mort parce qu'un esclave n'a aucun droit. Donc ici, sauve, fini pour lui. Donc c'est pour ça que Onésime s'est converti auprès de Paul ou à Rome. Et là, qu'est-ce que Paul fait? Il renvoie Onésime à Philémon et il dit, Philémon, prends soin de... Il lui dit, on n'est pas dans Philémon, c'est vrai, mais il lui dit, prends soin de ton esclave, il prend soin de... Qu'est-ce qu'il lui dit? Prends soin de ton frère, il lui dit. N'oublie pas que vous allez hériter ensemble de tout cela. Donc, c'est intéressant de voir comme quoi il faut avoir la notion. Et le livre que je voulais faire référence, c'est dans Éphésiens. Dans Éphésiens aussi, quand il parle mari, femme, enfant, maître et esclave, la même séquence qu'on voit dans Colossiens. Donc, ça veut dire que c'est important d'être enseigné sur les maîtres et les esclaves. Et ça peut, et automatiquement, on traduit ça à patron et employé. On doit être droit. Maître et esclave, patron, employé. Employé, patron aussi, le respect qu'on doit avoir les uns pour les autres. Alors, au verset 2, on va lire les versets 2 jusqu'au verset 6, la fin du verset 6. Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ, pour lequel je suis dans les chaînes, et le faire connaître comme je dois en parler. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Je vais vous le lire dans la version Sommer et vous allez suivre dans votre version. Okay? 4, 2 à 6. Vous allez voir la différence, sans être une différence, mais surtout l'interprétation qu'il donne ou l'explication, tout dépendant comment qu'on le voit. Alors, je suis au verset 2, chapitre 4, Colossiens, chapitre 4, verset 2. « Que la prière soutienne votre persévérance. Soyez vigilants dans ce domaine, plein de reconnaissance envers Dieu. Lorsque vous priez, intercédez en même temps pour nous, afin que Dieu nous donne des occasions d'annoncer sa parole, de proclamer le secret de son plan qui concerne le Christ. » C'est à cause de ce message que je suis en prison. Demandez donc à Dieu que, par ma prédication, je puisse faire clairement connaître ce message comme il est de mon devoir de le faire. Conduisez-vous avec sagesse dans vos relations avec ceux qui n'appartiennent pas à la famille de Dieu, en mettant à profit toutes les occasions qui se présentent à vous. Que votre parole soit toujours empreinte de la grâce de Dieu et pleine de saveur pour savoir comment répondre avec à propos à chacun. Alors, vous voyez, comprenez ce que je veux dire? C'est la même chose, c'est le même texte, mais on dirait qu'il explique le texte. C'est pour ça que je dis que faut faire attention, la Sommeur est intéressante à lire, OK? Parce que c'est fluide. Par contre, faut faire attention à la tendance à expliquer le texte, voire l'interpréter. Mais on va prendre le temps de regarder ça. Alors, dans le passage qu'on regarde ce matin, les 4-5 versets qu'on regarde ce matin, on voit l'importance des paroles dans ce qu'on va regarder. Et la parole de Dieu en parle beaucoup, les paroles. Elle nous dit que nos paroles, lorsque nous parlons, reflètent notre cœur, notre personnalité, ce qu'on a en dedans. C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, tout ça. Donc, quand on parle, on voit ce qu'on a en dedans. C'est intéressant. Et ça ne peut pas se cacher. Parce que ce qui sort de nous autres, c'est vraiment nous autres. Si on ferme notre bouche, on va passer pour un
sage.
La parole de Dieu est claire, la proverbe. On va passer pour un sage. Est-ce que ça veut dire qu'on est un sage?
Non.
Pas nécessairement. Hein? Je veux faire de la politique un peu. Regardez notre ami, notre premier ministre. Pas notre ami, mais notre premier ministre du Canada, M. Trudeau. Justin Trudeau, il se promène à grandeur du monde en ce moment. Là. Il y a des colloques un peu partout, j'allais dire des parties, c'est probablement pas des parties. Il parle... Pardon? Peut-être. Il parle peu. Et il passe pour?
Sage.
Il dit, c'est un homme d'une grande sagesse. Je l'ai lu dans la presse. Est-ce que c'est un homme d'une grande sagesse à 43 ans? J'en sais rien. Mais il parle peu. Autrement dit, quand il va parler un peu plus, on va peut-être connaître un peu plus la profondeur de M. Justin Trudeau. J'ai pas dit qu'il est pas sage, n'allez pas dire ça, là. OK, donc la bouche est importante. Jacques en parle, il le compare à... Dans l'épître de Jacques, il compare la bouche ou la langue.
Un feu.
Comment il l'appelle?
Dévorant.
Ou il le compare aussi à un gouvernail, OK? Un petit membre qui gouverne un énorme bateau. Et voilà ce qu'on peut faire avec la bouche, hein. La bouche peut être comparée à la bouche des méchants ou à la bouche des rachetés. Et je pourrais vous donner toute une série de versets. Je les ai tous commencés dans M. MacArthur qui dit ça. Mais on voit plusieurs choses sur la bouche des méchants qui répand les méchancetés dans Proverbes. L'immoralité, tromperie, malédiction, oppression, mensonge, destruction, vanité, flatterie, folie, insouciance, arrogance, fausse doctrine, complot, haine, commérage. La langue. On peut tout faire ça avec la bouche. Avec la bouche, on peut détruire. Avec la bouche, on peut construire. La bouche des rachetés ne doit pas être comme ça. Donc la nôtre ne devrait pas être comme ça. Elle devrait être une bouche qui parle de la confession du péché, de la confession qu'on connaît Christ, des paroles édifiantes. Nous discourons sur la loi de Dieu, les louanges à Dieu, les louanges de Dieu, bénédiction des ennemis. Intéressant de voir que, au lieu de maudire ceux qui nous font du mal, on doit les bénir et on doit même les aimer. OK? Si vous êtes aussi mauvais que moi, la première réaction quand quelqu'un nous fait du tort, c'est quoi?
Se révolter.
Si je peux l'accrocher.
Hein?
Juste, donnez-moi juste 5 minutes. Avec. Vous comprenez, ça, c'est l'attitude mauvaise de notre cœur pécheur. Le Seigneur nous dit, non. Aime tes ennemis. Intéressant, OK? Le Seigneur a aimé ses ennemis. Même sur la croix, sur le point de mourir, il a pardonné à ceux qui le crucifiaient injustement. Et il s'attend de nous qu'on fasse la même chose. OK, donc, bénédiction des ennemis, discussion avec Dieu, sur Dieu, sagesse, bonté, douceur, grâce. On doit parler de manière irréprochable, sans fraude, sans irrité, etc. C'est tous des passages qui nous parlent comment que notre bouche devrait parler. Et on va parler ce matin de l'homme nouveau. Chapitre 3, verset 5, commencez avec l'homme nouveau, l'homme régénéré. Oui, Michel. Vas-y, parle, je vais prendre une gorgée de café.
Oui, oui. Dans les Proverbes, ils disent que de mettre sa main devant la bouche, ça nous amène à respirer par le nez, de prendre ça égal. Ouais. Prends ton gaz égal.
Prends ton gaz égal. Papa, lui, mon père, il me disait...
Jésus était muet pendant
Ouais. Mon père, il dit, avant de parler, là, quand tu as quelque chose à dire, il dit, tourne ta langue cette fois dans ta bouche, tu vas dire moins de bêtises. Et c'est vrai. Pas juste des bêtises. On va dire moins de mensonges. On va se défendre moins quand c'est pas nécessaire. On va faire moins de plaisanteries. Vous savez, les plaisanteries, j'ai rien contre faire des plaisanteries. Il faut savoir comment et quelle plaisanterie et avec qui. Faut faire attention, on peut blesser avec une plaisanterie, tandis que notre attitude, notre intention n'était pas cela. Donc, on fait attention avec les plaisanteries. Donc, tu sais, réfléchir avant de parler. Des fois, nous réfléchissons après avoir parlé. Le problème, c'est qu'on a déjà trop parlé. Au verset 5, chapitre 3, on parle de l'homme nouveau. 5 à 17, on parle des caractéristiques personnelles de l'homme nouveau. On a tous vu ça déjà. Du verset 18 au 4, 1, que vous avez regardé la semaine passée, on parle l'homme nouveau dans son foyer, dans sa gérance du foyer, maître, esclave, tout ça. On parle comment qu'on doit vivre chez nous. Lorsqu'un enfant de quelqu'un vient à Christ, devient un enfant de Dieu, il doit y avoir un changement dans sa conduite. Et Jacques parle des œuvres de la foi. On croirait qu'il dit que le salut est par les œuvres. Contrairement à Paul qui dit que le salut est par la foi, par la grâce de Dieu, par le moyen de la foi dans Éphésiens. Est-ce que Jacques dit que le salut est par les œuvres?
Non.
Il dit que les œuvres prouvent la foi. Mais Paul dit la même chose, parce que si on voit dans Éphésiens 2, 8 et 9, on est sauvé par la grâce, par le moyen de la foi, afin de pratiquer les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Les œuvres, qu'est-ce qu'elles font? Elles démontrent la foi. Une foi sans démonstration, c'est une foi morte. Une foi morte, est-ce que c'est la vraie foi? C'est difficile à voir. D'ailleurs, quand on discipline dans l'Église, on discipline souvent en fonction de quoi? Presque tout le temps. Comportement, les œuvres. OK? Est-ce qu'on condamne la personne qui est disciplinée à l'enfer? Non, on doit la considérer. Non, on doit la considérer. Il y a un mot important. Comme un païen. Pas à nous de dire que s'il est sauvé ou pas, c'est à qui? C'est à Dieu, parce que Dieu regarde au cœur. Nous, dans le cœur, on n'est pas capable d'aller voir. Nous, on regarde à l'extérieur, on voit les actions, on entend les paroles. Mais Dieu regarde au cœur. Donc, on doit le considérer comme un païen. Pourquoi est-ce qu'on met quelqu'un en discipline et on doit le considérer comme un païen? Afin qu'il ne contamine pas. C'est comme une orange. Hein? Vous mettez une orange qui est toute verte d'un côté, dans le paquet d'oranges, qu'est-ce qui arrive? Toutes les oranges en contact de l'orange avec du tout pourri vert font la même chose. Hein? La pourriture, donc le péché, contacté aussi pour les autres. Bon, là je me suis étiré un peu jusqu'en Éphésiens, Jacques, etc. Là. OK, donc, l'homme nouveau, c'est ce qu'on va regarder. Et les incroyants, c'est ce qu'on va regarder dans notre passage ce matin, sa conduite et ses paroles. Alors, je vous lis. Dans une vieille histoire, un sage de la Grèce reçut un animal à sacrifier. Il avait pour instruction de renvoyer au donateur la meilleure partie de l'animal. Il renvoya la langue. La langue est à la fois le meilleur et le pire de l'homme. Avec la langue, on bénit Dieu, avec la langue, on maudit ceux qui ont été créés à l'image de Dieu. C'est la parole de Dieu qui dit ça. Et c'est vrai que nous avons énormément de problèmes dans notre vieille nature avec la langue. J'ai pas dit vous, j'ai pas dit j'ai dit nous avons. Et le plus gros problème dans le couple, c'est la langue. Nous ne maîtrisons pas ce que nous disons, et nous disons beaucoup plus que ce que nous pensons. Et nous utilisons des mots que nous n'utiliserions pas avec d'autres, mais avec notre épouse, notre époux, nos enfants, nous utilisons ces mots-là. Nous sommes plus durs avec ceux qu'on aime, et je ne dirai jamais, je m'emploie moi, ces mêmes mots envers mon patron. Donc, ça veut dire qu'on est capable de
blesser,
de se contrôler. Si je suis capable de ne pas envoyer paître, je suis poli, là. Mon patron, OK, et de le qualifier de ci, puis de ça, puis de ci, puis de ça. Est-ce que je devrais être capable de contrôler ma langue aussi quand je parle avec ceux que j'aime, ceux que je chéris, ceux qui font... Bien, pas ceux, j'ai rien qu'une femme, là, mais ma femme, mon épouse, mon époux, mes enfants, mes parents, le respect, ça. Donc, on est capable, hein? Donc, la langue peut faire énormément de dégâts. Et Jacques en est très d'accord, hein? Vous lirez Jacques chapitre 3 au complet, vous le lirez à la maison, là, on ne prendra pas le temps. Mais Jacques en parle. Et quand il parle d'un feu dévorant, là, des paroles peuvent faire mal longtemps. Longtemps. Hier soir, j'étais à la maison tranquille et j'ai regardé un film avec ma femme et j'ai resté réveillé tout le long du film. Quoique c'était un film bien ordinaire, j'ai même oublié le titre déjà, là. Mais c'était la question d'une jeune fille élevée par sa maman, est à l'école secondaire, et c'est une histoire vraie. Elle est devenue le meilleur quart arrière au football américain, une fille, dans tout ce qui touche le football pré-universitaire. Et elle est abandonnée par son père 5 ans avant qu'elle commence à faire ça, ou 4 ou 5 ans avant, tu sais. Mais à un moment donné, son père parce qu'elle est dans une école après universitaire, au secondaire, autrement dit, pourri au football, dernière équipe. Et quand elle commence à jouer, elle, c'est son oncle, qui lui est un ancien joueur de football, qui l'entraîne, tout ça, comme quart arrière. Et là, ça passe à la radio tellement il passe de la dernière place pour monter jusqu'à la finale. Ils sont en finale, tu sais. Donc, ça passe à la télévision. Et son père, qui ne l'a pas vu depuis 5 ans, tout à coup réapparaît. Et là, vous savez, il beurre la tartine épais, là, il en met épais, là, pour féliciter sa fille. Ah oui, il lui donne sa montre, parce que lui est un ancien joueur de football professionnel. Il lui donne sa montre un jour qu'il avait gagné. Il lui donne sa montre, tout ça, tu sais. Puis il lui dit, je vais être là à ton prochain match, je serai là quand... Et il ne vient pas. Les pires choses qu'il aurait pu faire, c'est ne pas venir. Pas lui. Il aurait pu dire n'importe quoi, mais il lui a promis qu'il venait. Les paroles blessent à vie. Je suis certain que dans le groupe ici, que ce soit vos parents, que ce soit votre oncle, votre frère, vos amis, quelque chose, vous avez des blessures qui sont encore des cicatrices dans la vie. Gloire à Dieu, le Seigneur peut guérir la douleur. Mais même quand il guérit la douleur, il y a toujours une cicatrice. Oui, le Seigneur peut nous guérir. Ok, je suis pas quelqu'un qui pense que le passé n'est pas guérissable. Je l'ai vu dans la vie de mes parents. Ok, mes parents ont un arrière-plan terrible du point de vue familial. C'est mon père est orphelin de père, il n'a jamais connu son père et est abandonné par sa mère à 5 ans. À 5 ans, on s'en souvient. Ok, c'est Monsieur Fré père, le père de René Fré, qui l'a dirigé vers le pardon vers sa mère. Et mon père avait été assez âgé quand il a pardonné à sa mère. Donc, ça fait mal, les paroles. Donc, on va jaser des paroles un petit peu ce matin. Verset 2, il nous parle de persévérer dans la prière. La prière nous donne un accès à Dieu direct. Mais ce n'est pas un guichet automatique. Nous avons tendance à manquer le côté de la crainte de l'Éternel. Oui, le Seigneur veut avoir une relation filiale avec nous. Papa, fils, papa, fille, définitivement. Il n'a pas fait de nous ses enfants, il ne nous a pas adoptés pour qu'on ait peur de lui et une crainte peureuse. Comprenez ce que je veux dire? Comme on voit du côté d'Israël. Mais pourquoi est-ce qu'Israël avait la chienne? Bon, ça c'est une expression québécoise, là. Mais pourquoi ils étaient vraiment peureux devant l'Éternel, Israël? Pourquoi ils pouvaient mourir? Parce que c'est un Dieu saint qui marchait parmi son peuple. Mais pourquoi ils pensaient ça, qu'ils pouvaient mourir? Ils n'étaient pas pardonnés. Ils étaient pécheurs. Ils étaient surtout désobéissants. Et quand Dieu se tannait de leur désobéissance, qu'est-ce qui arrivait? Tu sais, quand tu lis les descriptions de ça, la terre s'ouvre, il y en part à une dizaine de mille, là, tu sais, le feu du ciel descend, etc. Ils vont à la guerre, c'est parce qu'ils n'ont pas obéi, il en meurt 25 000, je donne des chiffres comme ça, là. C'est tout ça qui arrive. Ils désobéissent. OK, t'es écœuré de manger de la manne. M'entends donner des cas jusqu'à temps que ça sorte par les oreilles. Et c'est tout ça qui arrive. Parce que vous avez Israël à la tête dure, le cou raide. Et Dieu est obligé de redresser. Pensons à nos parents quand nous étions petits. Puis que nos parents venaient nous corriger parce qu'on avait fait un mauvais coup. Puis qu'ils nous disaient, tu sais mon gars, je fais ça parce que je t'aime, si vous avez eu pour ton bien. T'as pas l'impression, quand t'es haut comme ça, que c'est pour ton bien puis qu'ils t'aiment. Hein? Surtout au cinquième coup, là. Moi, je me rappelle, mon père m'a donné une dernière correction parce que j'ai désobéi sérieusement. J'avais 14 ans. Hey, je n'ai mangé une sucrée. OK? Et sur le coup, là, j'en voulais à mort. Mais quand tu restes dans cette attitude-là, comme Israël restait, il n'y avait pas une relation de père-fils, fils-père. Mais avec le temps, en vieillissant, on comprend ce que nos papas, notre maman voulaient faire avec nous. J'espère que vous avez eu des parents comme ça. Ou encore, comme nous, ce qu'on voulait faire avec nos enfants. Maintenant, c'est eux qui élèvent leurs enfants. Eux, ils comprennent. Maintenant, ça prend du temps, tu sais, la relation père-fils. En tout cas, voyez-vous la différence? Mais Dieu veut bien faire du bien avec nous parce qu'il nous aime. Et il nous reprend parce qu'il nous aime. Et la parole de Dieu le dit souvent. Un père qui ne reprend pas, qui ne corrige pas son enfant, n'aime pas son enfant. Et on le voit dans notre société. Okay? Donc, je vous encourage à des parents qui aiment leurs enfants, en reprenant, en corrigeant, en dirigeant vos enfants, en recherchant toujours la sagesse que Dieu seul peut donner. Est-ce qu'on se gratte la tête? Comment corriger nos enfants des fois? Définitivement. Est-ce qu'on fait bien? Oui. Est-ce qu'on fait mal? Oui. Mais on doit chercher à corriger nos enfants. Et des fois, on corrige nos enfants et on leur demande, pardon, j'ai pas été fair, j'ai pas été juste, j'ai pas été équitable dans cette correction. Il faut demander pardon. Et là encore, quand on demande pardon, qu'est-ce qu'on fait avec nos enfants?
On donne l'exemple.
On donne l'exemple, on les enseigne. On leur montre qu'écoute, papa et maman, là, on n'est pas parfaits, on est pécheurs, nous aussi. Je te demande pardon, tu sais. On leur enseigne. C'est bien mieux que de les prendre par l'oreille et de leur dire, demande pardon à ton frère. Je te demande pardon. Y as-tu compris? Hein? Mais quand tu vois papa et maman qui, waouh, qui viennent demander pardon, c'est une bonne leçon. Le langage de la persévérance. OK? Alors, dans la sommaire, il dit que la prière soutienne votre persévérance. Intéressant de voir par la seconde 1910, là. C'est marqué persévérer dans la prière. Puis la sommaire dit que la prière soutienne votre persévérance. Il y a une petite différence dans la phrase. Si je dis persévérer dans la prière, ça doit dire que je dois m'y attacher. Je dois y travailler. D'ailleurs, c'est renforcé par la suite qui dit veillez-y, veillez-y. Tandis que dans la sommaire, il dit que la prière soutienne votre persévérance. Soyez vigilants dans ce domaine. Alors, veillez-y, soyez vigilants dans ce domaine. Ça marche ensemble. Mais que la prière soutienne votre persévérance. Mais dans un certain sens, la prière soutient la persévérance et la persévérance va nous aider à être dans la prière aussi. Donc, c'est un lien. Pas de prière et la persévérance va être difficile. Pas de prière, pas de temps dans la parole, la persévérance va être difficile. Pas de prière, pas de temps dans l'enseignement de la parole, la lutte contre le péché va être impossible. Autrement dit, on se distance de Dieu. Dieu ne se distance pas de nous comme papa. Nous, on se distance. Vous comprenez la différence? Comme l'enfant prodigue. L'enfant prodigue, est-ce que son père a cessé de l'aimer? Non. Mais le fils a sacré son camp. Est-ce que nous faisons ça des fois? Définitivement. Lorsqu'on se met au jeûne de la prière, c'est-à-dire qu'on arrête de prier, au jeûne du temps dans la parole de Dieu, on arrête de lire la parole de Dieu, et ce qui va suivre, on arrête de venir à l'église. On vient moins souvent, etc. Et tout ça, on voit que ça avance et on s'éloigne de Dieu. Pas Dieu qui s'éloigne de nous, nous nous éloignons de Dieu. Frères et sœurs, je nous exhorte, la parole de Dieu nous exhorte à être persévérants dans la prière, à prier et à s'attendre à des résultats dans la prière. Je l'ai dit là, il y a deux semaines, à la conférence de M. Paulison, il a dit une chose. Il dit, vous savez ce que ça veut dire, la prière? Ça veut dire demander. Puis il dit, savez-vous ce que ça veut dire, supplier? Il dit, ça veut dire vraiment demander. Frères et sœurs, est-ce que vraiment nous demandons ou est-ce que nous, de temps en temps, nous demandons quand j'y pense? Et là, après, on se dit, Seigneur, prends du temps à répondre. Et lui pourrait nous dire, tu prends pas de temps à me demander. Il s'attend à ce qu'on demande. Donc, persévérer, être ferme, patient, persistant, courageusement, tenir ferme et ne pas se relâcher. Ça, c'est les mots pour expliquer dans le texte original ce que veut dire persévérer. Je répète, être ferme, patient, en persistant courageusement ou encore tenir ferme et ne pas se relâcher. Est-ce qu'on a besoin de tenir ferme et ne pas se relâcher? Mais un, notre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant et cherche lequel il va faire trébucher de nous autres. Et le seul moyen qu'on a, c'est crier à l'Éternel, « Seigneur, viens à mon secours. » Dans la tentation, remarquez ça dans votre vie, dans ma vie, je remarque ça. Quand la tentation arrive, si je crie à l'Éternel, vraiment demander, je passe par-dessus la tentation. Quand je ne demande pas, je succombe à la tentation. Je donne pas ça comme excuse. Okay? C'est juste une parenthèse. Okay? OK, alors donc la prière, l'importance de la prière, la vigilance, la persévérance. On voit dans Éphésiens 6, dans Luc 18, dans 1 Thessaloniciens 5, dans Romains 12, prier en tout temps, prier sans cesse, se consacrer à la prière. La prière, c'est une conscience de Dieu. Dieu est toujours présent, toujours là. Une conscience de Dieu, un dialogue avec Dieu. Ce n'est pas quand je m'assois à l'église le dimanche matin, ou encore dans mon église de quartier le mercredi soir ou un autre tantôt, ou encore tout le matin ou le soir chez moi, là je ferme les yeux, je me mets à genoux, puis je prie. Ce n'est pas juste ça la prière. Ça, c'est un moment de prière. Je pense que si on veut comprendre prier sans cesse, à tous les moments de notre journée, Dieu est présent, le Seigneur est présent, il vit en nous, il est à côté de nous, il est prêt à répondre à toutes nos requêtes, à toutes nos demandes, à toutes nos réflexions. On peut partager avec Dieu. Qu'est-ce que tu veux m'enseigner là-dedans? Pourquoi il arrive telle ou telle chose? C'est comme quand j'étais en auto, puis là, j'étais rendu dans 3 ou 4 pouces de neige. J'ai dit, Seigneur, OK, j'ai compris. J'ai remis 3 fois quelque chose que j'aurais dû faire la première fois. Donc, tout ça pour dire qu'on doit apprendre, puis qu'il y a une relation du moment. Et je pense que c'est ça, prier sans cesse. C'est demander, mais avoir une relation, réfléchir avec Dieu, parler avec Dieu. Qu'est-ce que tu m'enseignes dans tout cela? C'est intéressant de voir ça. Donc, l'engagement de la prière, c'est la recherche de la communion avec Dieu, rechercher sa volonté, rechercher sa direction, en attendant une réponse de Dieu qui sera suivie de quoi? Dieu nous parle. Qu'est-ce qu'il s'attend? Obéissance. Il s'attend obéissance. Et là, je vais vous lire de Madame Virginia Owens. Et elle voit la prière parce que la prière est spéciale. On n'a pas toujours la réponse qu'on aimerait avoir. Est-ce que vous pensez que l'apôtre Paul a prié pour aller en prison? Définitivement pas. Où voulait-il aller? Il voulait aller porter l'évangile jusqu'à où? Le plus loin possible. Et il a arrêté à Rome. Okay? La seule chose, c'est que s'il n'avait pas arrêté à Rome, nous n'aurions pas la plupart des épîtres que nous avons. Dieu a arrêté Paul pour Colossiens, pour Rome, pour Éphésiens, et Philémon, etc. Donc, c'est intéressant de voir que la prière qu'on demande, nous n'avons pas toujours la réponse qu'on veut avoir. Je vous lis ce que Mme Owens a écrit, ce qui suit concernant la lutte avec Dieu dans la prière fervente. Elle donne l'exemple de plusieurs qui ont lutté avec Dieu dans la prière. Prends l'exemple de Jacob, qui a été blessé à la hanche, parce qu'il voulait pas partir tant que Dieu ne l'aurait pas béni. Il donne l'exemple d'Abraham qui lutte dans la prière pour Sodome et Gomorre. Et il donne différents. Et il donne l'exemple de Jésus-Christ qui a lutté avec Dieu dans la prière. Si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Et Dieu lui a répondu. Est-ce que Dieu lui a répondu, vous commencez? Bonne question, hein? Jésus-Christ, quelques instants avant qu'il soit trahi par Judas, pendant que ses disciples, les apôtres, dorment, qu'ils n'ont pas pu veiller, il prie puis il dit, Père, si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. Est-ce que Dieu lui a répondu? Il a répondu. Comment a-t-il répondu? Il n'a rien dit. Il a laissé le cours du programme aller. La volonté de Dieu, c'est que Christ meure sur la croix pour toi puis pour moi. Dieu n'a pas répondu, mais Dieu a répondu. C'est pour ça que quand des frères et des sœurs me rencontrent, ils me disent, Dominique, Dieu m'a parlé. Ça, j'ai bien la misère avec elle. Elle me dit, Dieu m'a parlé. Ben, je dis, pourquoi tu es moi? Enfin, bon. Premièrement, si Dieu a parlé, moi, j'ai rien à dire. Pas un mot. Puis il me dit, qu'est-ce que t'en penses? Surtout quand on a discuté de ce sujet-là en conseil des anciens, puis que t'as tous les anciens qui pensent le contraire, j'ai un petit peu de difficulté. Mais j'ai dit, écoute, qu'est-ce que je te dis? Vas-y. Et qui revient 3 mois après, puis qui me dit, ah, là, le Seigneur m'a réellement montré ce qu'il veut. Comprenez ce que je veux dire? Attention à cela. Si le Seigneur a une volonté pour toi, une volonté pour moi, les autres qui sont autour de toi, en priorité ceux qui sont plus près de toi, vont le voir, vont avoir le même message. Donc, c'est important de ça. Bon, je vais lire ce que Mme Owens dit, la lutte dans la prière. Les chrétiens ont toujours interprété le fait que le voile du temple se soit déchiré pendant la crucifixion comme le symbole de leur libération, d'une médiation pour avoir accès à la présence de Dieu. Dès lors, ils sont libres de s'approcher directement de lui, ce qui est presque la même chose que le dire à quelqu'un qu'il est libre de rentrer sa tête dans la gueule d'un lion. Car une fois qu'on commence à prier, rien ne vous garantit qu'on ne vous retrouvera pas devant Pharaon, échoué sur une île déserte ou dans une fosse aux lions. Nous ne nous blottissons pas contre un nounours cosmique. C'est un des enfants... Comme un des enfants le décrit dans les chroniques de Sarnia, de C.S. Lewis, ce n'est pas comme un lion apprivoisé. Elul ou Jacques est convaincu que la prière pour ceux qui vivent à l'ère technologique doit être un combat, et pas seulement un combat contre Satan, mais contre la société ou même contre le moi divisé, bien que ce soit tout aussi cela. C'est un combat contre Dieu. Nous aussi, nous devons lutter contre lui, comme Jacob l'a fait à Péniel, où il s'est acquis le nom d'Israël, celui qui lutte avec Dieu. Nous aussi, nous devons être prêts à dire, « Je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. » Considérez Moïse, intervenant à maintes reprises contre les Israélites et la colère de Dieu. Moïse, à plusieurs reprises, a dit, « Prends-moi plutôt que Israël. » Parce que des fois, Dieu arrivait, il dit, « Je vais rayer de la map. » Et Moïse disait, « Non, prends-moi la place. Enlève mon nom du livre de vie. » Il était prêt à... Okay? Et Dieu, il luttait avec Dieu. Il luttait avec la volonté de Dieu. Abraham priant pour Sodome, la veuve demandant justice au juge unique, mais dans ce combat avec Dieu, on nous avertit que nous devons être prêts à subir les conséquences. L'emboîture de la hanche de Jacob se démit. Il s'en alla boiteux. Cependant, le plus souvent, la décision de Dieu sera de mettre à l'œuvre celui qui a crié vers lui. Le mettre à l'œuvre. Okay? Quiconque lutte avec Dieu dans la prière met toute sa vie en jeu. Des choses terribles arrivent à ceux qui prient. Leurs plans sont perturbés. Ils se retrouvent dans d'étranges lieux. Abraham partit sans savoir où il allait. Après avoir fait sa magnifique prière lors de l'Annonciation, Marie devint la paria ou le paria de la société de Nazareth. Comme il est tentant d'insister sur le côté profit et de faire de la prière simplement un autre produit de consommation. Quel embarras que d'avoir à reconnaître non seulement que la prière peut nous amener en prison, comme Jérémie, mais aussi que pendant que vous moisissez dans un de ces cachots bourbeux, vous avez peut-être une longue liste de lamentations et de questions sans réponse à présenter à notre Seigneur. Comment allez-vous dire aux gens qu'ils peuvent devenir boiteux, errants, s'ils s'accrochent à Dieu? Ce qu'elle veut dire par là, c'est que Dieu a une volonté. Et quand on lui dit, Seigneur, fais de moi ce que tu veux, attention, Dieu va le faire. Quand on lui dit, Seigneur, peut-être que tu peux faire de moi ce que tu veux, qu'est-ce qu'il va faire?
À rien.
À rien? Ou il va faire quand même de toi ce qu'il veut? Prenons l'exemple. Dans les Actes des Apôtres, Acte 1-8, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisants, non, ça c'est dans Matthieu, il dit, vous serez mes témoins en Jérusalem, Judée, Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Ça marche bien, Jérusalem. Des conversions en masse. Sauf qu'on reste à Jérusalem. Qu'est-ce que le Seigneur fait? Il dit, je vais bénir l'Église de Jérusalem. C'est ça qu'il fait. Il faudra lire le chapitre 8. Je pense que c'est le chapitre 8, si je me souviens bien. Il envoie la persécution. Tout de suite après le meurtre d'Étienne, la persécution est déferlée sur Jérusalem au point que les chrétiens sont dispersés. Où? En Judée, en Samarie. Dieu a un plan et Dieu va accomplir son plan, et ça je le dis souvent, avec toi, malgré toi, sans toi. Avec moi, malgré moi, sans moi. Dieu a un plan et il va accomplir son plan jusqu'au bout. Alors, il est aussi bien de le faire volontairement. Seigneur, utilise-moi. Et quand on dit « utilise-moi », puis on peut finir en prison comme Paul, on peut finir dans l'arène avec les lions, comme les chrétiens à Rome. On peut finir dans le fin fond d'une citerne comme Joseph, ou vendu comme esclave, qui finit dans une prison, etc., etc. Mais Dieu avait un plan. Est-ce que vous pensez que Joseph s'est gratté la tête à certains moments? Ça doit, hein? Mais Dieu avait un plan pour sauver Israël à ce moment-là, sauver sa famille, etc. Donc, quand on prie, Dieu a un plan. Et le plan, ce n'est pas qu'on ait une retraite dorée, OK? Son plan, ça peut être qu'on n'ait pas de retraite pantoute, qu'on soit mort avant la retraite, qu'on soit persécuté, tout ça. Donc, attention lorsque nous prions. Mais je pense que nous devons prier. Le meilleur qui peut arriver dans notre vie, ce n'est pas de faire notre volonté, mais de faire sa volonté. Et lorsqu'on va mourir, parce que malheureusement, à moins que le Seigneur revienne avant, là, on est tous sur le bon chemin pour ça. Okay? Là, on va tous mourir. Okay? Il y en a qui meurent plus jeunes, il y en a qui meurent plus tard, mais quand même, que ce soit à 20 ans ou que ce soit à 90 ans ou 95 ans, on va mourir. Et là, on va faire face à Dieu et on va pouvoir lui présenter notre couronne. Voilà, Seigneur, tu m'as demandé ça, j'ai fait ça. On ne sera pas comme le serviteur. Tu m'as donné un talent, je sais que tu es dur, tu es méchant, tu es sévère. Je l'ai enterré pour ne pas le déplacer. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va nous tirer les oreilles. Hein? Méchant serviteur. Reste un serviteur, mais c'est un méchant serviteur. OK. Veillez. Les apôtres n'ont pas veillé avec Jésus. Hein? C'est plus qu'une une vigilance physique. Hein? C'est veiller, c'est aussi chercher à connaître les choses pour lesquelles on doit prier. On doit prier avec cœur, OK? Et je pense qu'il y a des requêtes qui nous touchent plus que d'autres. Alors, c'est sûr que dans votre famille, si votre époux, votre épouse, un de vos enfants, gendre, petits-enfants, famille, si ne connaît pas Christ comme sauveur, c'est en priorité dans vos requêtes de prière. Ça l'est tout le temps. On aime, et c'est normal, ceux qui sont notre chair, et c'est normal, frères, sœurs, et on prie, et c'est en top priorité, OK? Avant toutes les bénédictions qu'on réclame au Seigneur. Alors, on prie pour nos bien-aimés. Mais on ne doit pas oublier que il n'y a pas juste nos bien-aimés qui s'en vont en enfer. OK? Ça, c'est peut-être dur un peu à dire, mais c'est ça. Mais ceux d'à côté aussi. Et je pense qu'on doit prier pour que le Seigneur nous donne l'occasion, et j'aime bien la traduction de l'Assommeur, on va lire un peu, l'occasion d'être des témoins vivants pour Christ. Non seulement, on va revenir avec ça l'occasion, un peu plus tard si on a le temps, là, mais on va prier avec action de grâce. Ça veut dire quoi ça? Reconnaissance, remerciement. La parole de Dieu nous dit qu'on doit prier comme si
on avait déjà
reçu. Alors, c'est sûr, si je prie cette semaine, ça passe à vous écouter la radio là ou la télévision, le lot de la 649 est 20 millions. Je l'ai vu à la télévision hier soir. Bon, C'est sûr que si vous priez que votre billet que vous avez acheté vous donne 20 millions, je doute que vous gagnez 20 millions. Okay? Je pense que Dieu n'a pas besoin de cela. Il est celui qui a toutes les richesses. Et les richesses terrestres ont quelque chose de terrestre. Elles vont toutes rester ici. Même si tu as un sarcophage ou un cercueil en or, veux pas, puis va t'en sacrer comme l'an 40 quand tu vas être mort. Tu n'as aucun intérêt aux choses terrestres. D'ailleurs, on compare la réaction que nous devrions avoir avec le péché à un mort. Un mort n'a aucune réaction face au péché. Il s'en fout. Il est mort. Donc, c'est pas ça que le Seigneur dit. On a des priorités dans nos requêtes de prière. Beaucoup plus importantes, beaucoup plus éternelles que de gagner 6,49. Tu peux peut-être gagner 6,49 cette semaine, 20 millions. Puis dans la nuit, ça t'a tellement excité, tu meurs d'une crise cardiaque. Ça te donnera pas grand-chose. Tes héritiers vont être très contents, par contre. Alors, le langage du témoignage, verset 3-4. Priez en même temps pour nous. Hein? Verset dit, je suis dans la bonne place, là. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes, et le faire connaître comme je dois en parler. Intéressant dans la sommaire, il nous le donne beaucoup plus simple. Et ça veut dire la même chose. Qu'est-ce que c'est quand il parle d'une porte? Oui, une occasion. Alors pourquoi pas dire une occasion? Hein? C'est parce que c'est un... Plusieurs fois, c'est utilisé le mot une porte. Mais dans la sommaire, j'y arrive. Là. Lorsque vous priez, intercédez en même temps pour nous, afin que Dieu nous donne des occasions d'annoncer sa parole, de proclamer le secret de son plan qui concerne le Christ. Donc, il dit, priez que j'aie des occasions. Où est Paul? Il est en prison. Est-ce qu'il va avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'occasions? Quand il écrit ça, il est en prison, mais en résidence surveillée, si on veut dire. Il n'est pas attaché entre deux soldats avec les chaînes aux pieds, tout ça. Il est en résidence surveillée. Les gens peuvent venir le voir. Mais généralement, quand tu es un prédicateur de l'Évangile comme Paul et que tu es en résidence surveillée à Rome, qui sont ceux qui viennent te voir? Les frères en Christ. Romains, oui. Mais des frères en Christ, ça marche pas en disant, Seigneur, donne-moi des occasions. Les inconvertis viendront pas voir un gars qui risque de mourir demain parce qu'il prêche le nouveau Christ ou le nouveau Messie. Certainement pas des Juifs. Donc, les occasions de prêcher l'Évangile sont relativement limitées. Mais, oui.
Il y a la loi, là, c'était pas tous les chrétiens.
Non.
Parce que, il y avait un peu les conséquences de la loi.
Ça prenait certains braves, et même un peu plus tard, quand il est dans un autre temps en prison, là, qu'est-ce que Paul dit? Exact. Tous m'ont abandonné. Sauf, il donne 2-3 noms. Intéressant. Pourquoi? Et hey, là, c'est plus grave. Là, il est entre deux soldats qui sont attachés à lui, enchaînés au ciment. Là, ça marche plus, ça va pas bien, là. Mais durant tout ce temps-là, oui, il a pu annoncer l'Évangile. Oui, il a eu des occasions par tout ce qu'il a écrit, par tout ce que le Saint-Esprit lui a donné d'écrit. Donc, c'est intéressant de voir les occasions que Dieu nous donne. Mais allons un peu plus loin. Verset 5. « Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors. » OK? Mais j'aime la traduction sommaire. « Conduisez-vous avec sagesse dans vos relations avec ceux qui n'appartiennent pas à la famille de Dieu. » C'est ça qu'il veut dire par les gens du dehors. Ils sont pas de ma maison. Ils sont pas de la maison de Dieu. Ils sont en dehors. OK? Donc, on doit se conduire avec sagesse. Et là, après, il dit, rachetez le temps. Le temps, est-ce que ça se rachète? Non. Le temps, quand il est passé, too bad. Il est passé. C'est pour ça que je dis aux jeunes, écoutez, là, dans votre jeunesse, voilà ce que vous avez à faire. Dans 20 ans, le moment passé est passé. Et il n'est pas rachetable. Les seuls exemples de quelqu'un qui a essayé de racheter du temps et qui a voulu avoir une rallonge, il a fait juste des bêtises pendant 15 ans. Vous lirez ça dans Ézéchiel, OK? Vous lirez ça dans sa vie. Il aurait été mieux de mourir quand Dieu avait décidé qu'il mourrait. Parfait, il pleurait devant Dieu. OK? Il a vraiment demandé à Dieu. Dieu a dit, OK, je vais te le donner, je te donne 15 ans. Il a fait des bêtises. Il aurait été mieux de mourir. Rachetez le temps. Et la traduction sommaire le met autrement. Conduisez-vous avec sagesse dans vos relations avec Dieu, avec ceux qui n'appartiennent pas à la famille de Dieu, en mettant à profit toutes les occasions qui se présente à vous. Racheter le temps, c'est dans le temps, c'est dans le même sens que le verset parle. De prier pour nous afin que j'aie des occasions de témoigner. Mais là, il dit, rachetez le temps à vous aussi. Conduisez-vous prudemment et profitez des occasions qui vous sont données. L'occasion qu'on ne saisit pas est une occasion passée, perdue. Attention à l'évangélisation que nous faisons. C'est super important. Si nous ne témoignons pas, qui va le faire? Si nous ne parlons pas de Jésus-Christ, qui va le faire? Et quand je dis aujourd'hui comme quoi que nous ne rejoindrons pas la ville de Montréal où on va se limiter à Rosemont par des campagnes de Billy Graham, ça c'est un temps passé. Nous ne le ferons pas par des programmes à la télévision, c'est un temps passé. Nous le ferons par les paroles que nous aurons avec notre voisin, notre camarade de travail, etc. Le 1 à 1 se fait facilement. Et pourtant, j'ai autant de chiennes que vous quand j'arrive pour témoigner à ma grande honte. Pourtant, lorsqu'on commence, qu'est-ce qui arrive? Ça va tout seul. On s'aperçoit qu'on connaît les versets, et si vous êtes aussi faible que moi pour les adresses, on s'aperçoit qu'on connaît même les références. Et de toute manière, on n'est pas là pour prêcher un sermon. On partage ce que Christ a fait dans notre vie. Mon père, qui était avec son camarade de travail en France, comme il dit qu'il l'écœurait avec l'Évangile tous les jours, il ne se rappelle plus le nom de ce gars-là. Il s'en est plus rappelé. Papa est venu au Seigneur, j'avais 8 ans, donc quand il est venu au Seigneur, il se rappelait ce que ce gars lui disait, le Nouveau Testament qu'il lui a donné, mais il se rappelait plus son nom, mais il se rappelait des versets qui lui parlaient. Et il se rappelait des référents pour un athée qui rejetait toute religion. Moi, j'ai travaillé avec des gars pendant plusieurs années, puis de tous les gars avec qui j'ai partagé l'Évangile, partagé ce que Christ faisait en fait pour moi, 2 sont venus au Seigneur. Les 2 sont venus me revoir après. C'est pour moi qu'ils ont conduit au Seigneur, pas du tout. C'est drôle, les 2 sont dans la même église aujourd'hui. C'est spécial. Donc, ne nous attendons pas à ce que c'est nous qui allons amener des gens au Seigneur. Mais nous plantons la graine, Apollos va arroser, mais c'est le Seigneur qui fait croire. Okay? Ça, c'est ce que Paul dit. Attention à l'évangélisation. Je vais juste vous faire 3 sortes d'évangélisation à la mode, des évangélisations que ce passage exclut, okay, qui est très à la mode aujourd'hui. L'évangélisation centrée sur l'expérience. Vous dites, tu vivras une expérience. L'évangile, le salut, n'est pas une expérience. Le salut n'est pas une expérience.
C'est quoi une expérience, excuse?
Ben, une expérience...
Une émotion.
Allez faire... Bon, moi, j'étais avec mes enfants il y a plusieurs années dans un grand parc qu'il y a près de Toronto. J'oublie le nom du parc. Là. Parc d'attractions, là. Il y avait des montagnes russes, là. Ce manège sera pour vous une expérience. Allez visiter le Grand Canyon. Quand René et Sharon sont allés au Grand Canyon, Don m'a dit, c'est toute une expérience voir ça. Descendre là-dedans. Vous comprenez l'idée d'une expérience? Se faire opérer à la tête, c'est toute une expérience. Comprenez? C'est ça. Mais le salut, c'est pas ça, une expérience. Le salut, c'est personnel. C'est quelque chose d'intime. C'est quelque chose, même jusqu'à un certain point, d'humiliant. Je reconnais mon péché. Mais c'est quelque chose de bénissant parce que Christ m'a aimé jusqu'à mourir sur la croix. C'est pas une expérience. Oui, mais c'est une relation qui nous transforme. Deuxièmement, ce n'est pas non plus une expérience où ce n'est pas centré sur les besoins. J'ai souvent entendu Jésus est présenté comme la solution à tous vos problèmes de la vie. Jésus est présenté comme une source de confort. Jésus est présenté comme une source de bien-être. Et on appelle ça une source de prospérité. On appelle ça l'évangile de prospérité. Si tu as la foi, tu vas gagner au 649, la prospérité. Dieu va te bénir, il veut te bénir. C'est drôle. Si Dieu veut te bénir, Paul a plus de foi que moi. Mais lui, il a fini en prison puis il est mort. Bien des chrétiens dans ce temps-là avaient plus de foi que moi. Et ils sont morts bouffés par les lions. Et vous lirez Hébreux chapitre 11. Toutes les délivrances, à partir du verset 35, ils ont été empalés, écartelés, etc. Et ils avaient la même foi que ceux du verset 1. La foi. Donc, l'évangile de prospérité, ce n'est pas un vrai évangile. C'est un faux évangile. Okay? Un autre, une évangélisation opportuniste. Technique, tactique, pression, manipulation, stimulation, etc. Non. L'évangélisation, c'est partager ce que Christ a fait dans ma vie. Si la personne à qui t'en parles, il s'en fout, c'est son problème. Mais qu'est-ce que Christ a fait dans ma vie? Pourquoi tu me donnes un coup de main aujourd'hui? Tu sais, je vais donner un coup de main avec mon voisin. Puis à un moment donné, tu vas faire ça 2-3 fois. Je vous encourage à faire ça, vos voisins. Vous savez pas comment commencer une bonne manière de parler avec vos voisins? Faites des gâteaux aux fruits. Ma femme fait ça chaque année. Faites des gâteaux aux fruits et vous remplissez une carte, vous leur souhaitez un joyeux Noël et vous écrivez un verset. Christ est venu, un bon verset sur la naissance de Jésus et vous allez le donner à vos voisins. Écoute bien, il n'y a pas un voisin qui va t'envoyer sur le bonhomme parce que tu vas y porter un gâteau à Noël. Comprenez-vous ce que je veux dire? La seule chose qu'il peut faire, il va te dire merci et te souhaiter un joyeux Noël. Puis là, il va lire ta petite carte. Et là, tu commences à avoir une relation avec tes voisins. Et Jésus le faisait. Il établissait des relations avec les gens de mauvaise vie, ceux qui avaient besoin d'un médecin. Faisons la même chose. Donc, une évangélisation qui en prend soin. En tout cas, on aurait pu continuer dans 5-6, le langage de la conduite, être sage, etc. On aurait pu racheter le temps. On nous dit d'avoir de la grâce et d'avoir du sel, d'avoir du goût. On doit être des enfants goûteux. Vous savez, quand on va manger un plat, là, OK, il y a deux choses qui sont importantes. La première chose, avant le goût, l'odeur. Oui. Nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, avoir la bonne odeur de Christ. Si on a la bonne odeur de Christ, ceux qui sont nos voisins vont vouloir goûter. Même les anges veulent plonger leur regard dans ça. Vont vouloir goûter. Mais là, s'ils veulent goûter, on doit avoir bon goût. On doit avoir le sel. Le sel rehausse le goût. Attention, le sel fait aussi autre chose. Il purifie. Hein? On peut prendre les deux aspects du sel. Il conserve, mais il purifie aussi. Hein? Quand on voulait mettre... Quelqu'un avait une plaie dans le temps, même si vous coupez, vous n'avez rien d'autre que du sel, là, mettez du sel là-dessus. Attachez vos trucs, par exemple. OK? Vous allez trouver que l'alcool, il n'y a rien là. Parce que le sel, ça se décompose tranquillement. Fait que quand t'en mets là, c'est tranquillement, longtemps. Mais ayons une bonne odeur, ayons un bon goût. Prions. Père Céleste, merci pour ta parole.